Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Caroline.
J'allais vous demander comment allez-vous, mais je vois sur vos petites fiches que... Ah non, c'est pas ce soir, c'est hier soir que vous êtes fâchée avec votre mari.
C'était vendredi soir. Exactement.
Ah, c'était vendredi soir. Eh oui, mais moi, j'étais pas là.
Non.
Pas m'appeler.
Non, j'ai pu en discuter un petit peu avec Caroline, qui a été adorable.
Ah, bah, c'est bien.
Après, c'était à brûle pour point, voilà. Donc, j'étais. En fait, c'est un petit peu. Donc, c'est pas un prétexte, mais c'est. Comment vous expliquer? Ça fait 3 ans que... Alors, ça fera 25 ans avec mon mari hein, qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à 17 ans et 20 ans.
Ah oui.
On est très, très heureux. On a construit notre famille. On est... on a chacun un parcours de vie complètement différent. Le mien étant beaucoup plus chaotique et... j'ai été élevée dans un contexte assez difficile et grâce à mon mari, j'ai découvert qu'on pouvait vivre autrement aussi,
oui.
Qu'on pouvait être heureux, qu'on pouvait vivre sans violence notamment. Sauf que depuis 3 ans, on n'avait jamais été autant éprouvés dans notre vie que là. C'est-à-dire que ça a démarré par un 24 décembre 2017 où notre fiston de 10 ans a fait un coma diabétique. Donc ça a été la découverte de son diabète. Donc il est insulino-dépendant. Sachant qu'il a aussi des troubles d'ordre autistique. Donc toute la compréhension autour de sa maladie, c'est très 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 compliqué. Encore maintenant, 3 ans après, c'est difficile, il peut encore se mettre en danger parce qu'il ne ressent pas les hypos, les hyper, etc. Donc, et puis 4 mois après la découverte de ce diabète, j'ai perdu ma maman, dont je m'occupais depuis 3 ans et demi, qui avait un cancer du sein. Sachant que ma maman m'a eu très tard, elle avait presque 45 ans quand elle m'a eu, donc elle avait 84 ans quand elle est décédée. Je faisais beaucoup de route pour aller la voir parce qu'elle habitait loin, etc. Donc ça a été beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, etc. Ce qui m'a conduit à consulter un psychiatre.
Oui, mais je comprends entre la découverte du... les troubles autistiques, vous perdez votre mère, c'est trop. Oui, vous aviez besoin d'aide à un moment, d'un soutien un peu extérieur. Oui.
Par rapport à l'autisme de notre fils, on avait pu, dès tout petit, mettre en place une méthode alternative parce que malheureusement, on nous avait un peu fermé les portes au niveau des écoles.
Ah oui.
Donc on avait réussi à s'occuper lui à la maison. Mm-hmm. On l'a gardé à la maison, il a été scolarisé plus tard, etc. Mais bon, voilà.
Mais c'est un investissement à temps plein, alors, pour vous, c'est
oui,
ça
oui, j'avais dû arrêter mon travail pour m'occuper de lui.
Pour vous occuper de... Oui.
Oui.
Il est fils unique.
On a 4 enfants.
On
a 4 enfants.
Oh là là.
Oui, on est 4 enfants et on est famille d'accueil.
Ah, vous êtes famille d'accueil.
Oui, je ne parle pas trop fort parce que toute la maison est dehors.
Actuellement, vous avez des enfants là.
Alors, on était.
Chez vous.
Oui, on était. Mon mari et moi étions accueillants avant d'être parents.
Ah, c'est rare ça.
Oui.
C'était un choix de votre part, j'imagine.
Oui.
Évidemment,
oui,
vous en aviez parlé. C'est rare, oui, d'être accueillant avant d'avoir ses enfants.
Oui, oui, oui. Donc, nos enfants ont toujours grandi avec d'autres enfants à la maison, avec du handicap, sans handicap.
Oui.
Bon, on a limité les accueils autant que possible, on va dire... qui pouvaient nous mettre en danger nos enfants, même si on ne connaît pas toujours leur histoire et on ne sait pas toujours avec quoi ils arrivent à la maison, avec leurs souffrances, etc.
Oui.
Mais comme on fait le métier tous les deux, c'est vrai que c'est un avantage. Voilà, on est tous les deux très vigilants, très impliqués, on se partage bien les tâches, on s'épanouit vraiment dans notre travail.
Donc en fait, avant même d'avoir vos enfants, quand vous dites on fait le métier tous les deux, vous êtes, c'est votre, tous les deux vous êtes impliqués dans cette mission d'accueil oui. d'enfants.
Oui. Et on a fait le choix de ne pas en accueillir beaucoup. Déjà parce qu'on a quatre enfants.
Vous avez quatre enfants.
De toute façon. Et quand on a démarré, on accueillait un enfant chacun. Parce qu'on voulait travailler plutôt en individuel et puis se consacrer enfant par enfant. Parce que déjà, nous-mêmes n'étant pas parents, il a fallu.
Vous travailliez dans le domaine de l'éducation avant d'avoir ce projet-là ou...
Alors oui, il y a une formation obligatoire. Formation obligatoire.
Oui, ça je sais. Mais est-ce que vous étiez dans ce domaine-là avant vous avez commencé très jeune au fond à vous lancer.
On a commencé très jeune. En fait, pour tout vous dire, mon mari a ses parents qui étaient accueillants familiaux.
Ah oui.
Ils accueillaient un jeune homme depuis ses 1 an et qui, à l'époque, en avait 15. Et il était emprisonné. Et mon mari m'a posé la question, m'a dit « Écoute, est-ce que tu crois qu'on peut faire quelque chose pour ce jeune homme ?» Et on venait d'acheter une maison en campagne, loin des villes, loin de, des milieux où ils pouvaient aller se mettre en danger dans tous les sens du terme.
Et oui.
C'était l'occasion de se mettre au vert. Et donc, bien sûr, tout de suite, j'ai dit oui. Et on a sauté dans la voiture. On est arrivé comme un cheveu sur la soupe. L'avocate était prévenue, etc. Et on est reparti avec ce jeune homme. On nous a mis au défi... pendant 1 mois de lui trouver un apprentissage, un maître de stage, etc. 1 mois après, on est retourné au tribunal et tout était validé. Et voilà comment on a commencé.
Incroyable.
Et nous, on s'est dit, on fait ça que pour lui. Et donc, quand il est parti de chez nous 3 ans plus tard, bon an, mal an, avec ses difficultés, ses réussites aussi, il a 34 ans aujourd'hui, il habite à 15 km de chez nous.
Oui,
et,
vous êtes resté très proche.
On s'en occupe toujours.
Ah, oui.
Oui, 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 il est toujours... il passe
c'est incroyable,
les fêtes de Noël
hein,
avec
ce que
nous,
vous faites,
etc. Oui. Et donc pour nous, c'était terminé. Moi, j'ai repris mon métier d'aide-soignante, puisque je suis aide-soignante de
vous
formation.
Vous êtes aide-soignante, d'accord.
Oui, ouais, je travaillais dans le milieu du handicap, ce qui m'a aidée aussi pour mon fils après.
Et oui, oui.
Et puis, on reçoit un coup de fil d'un conseil départemental d'action sociale pour nous dire « Vous avez un agrément, est-ce que vous pouvez prendre un enfant chez vous ?» Et nous, on a dit « Non, pas question. C'était que pour ce jeune homme. Il n'est pas question, on ne connaît pas, un inconnu. Bon, et puis finalement, on a réfléchi, on s'est dit « Bon, on s'est pas trop mal débrouillé, on a aimé faire ça. » un cadre de vie intéressant. On s'est lancé et puis on a une jeune fille qui est arrivée et elle est restée plusieurs années chez nous et ça a été un vrai bonheur et on a continué. Voilà, puis après on a eu nos enfants et voilà.
Donc c'est incroyable l'énergie. Il faut... Alors vous me dites, votre mari avait ses parents qui étaient accueillants familiaux, il a voulu perpétuer finalement quelque chose de l'histoire, et c'est que lui s'y est retrouvé, parce que
oui,
au fond, on voit bien comment avec ce garçon qu'il avait connu depuis l'âge de 1 an, il s'est investi avec vous, évidemment, et vous, finalement, parce que lui avait cette histoire-là, vous, ça aurait pu vous faire peur, et je me dis, souvent, c'est jamais anodin, ces histoires-là, au fond, il y a quelque chose lié à sa propre histoire d'enfant.
Vous ne croyez pas si bien dire, Caroline, parce que pendant ces... Alors là, donc on vient de vivre 3 années difficiles, mais pendant ces 3 années difficiles, il se trouve qu'en même temps, ça s'est fait comme ça, j'ai repris mes études, c'est-à-dire que j'ai passé une licence en sciences de l'éducation.
Incroyable, qui m'était proposée. Hein. Vous êtes bouffante, parce que franchement, avec vos 4 enfants, tout ce que vous avez... Enfin bon, je vous écoute, pardon, parce que vous voyez, j'ai tellement... ça me questionne tellement, et je vais quand même vous laisser parler.
En fait, si vous voulez, il y a eu l'annonce du diabète de mon fiston.
Oui, oui.
4 mois après, j'ai perdu ma maman.
Et oui.
Et fin de l'année, donc c'était au mois d'avril, et fin de l'année, on a une grande réunion, la grande messe du travail, on me dit, il y a telle formation. Et alors moi, je suis preneuse de toutes les formations, que ce soit à la journée, au week-end, à la semaine, peu importe. C'est vrai que j'adore me retrouver avec mes collègues de travail parce que ça peut être un métier très enfermant.
Oui, je veux bien vous croire, oui.
oui. si on ne fait pas l'effort d'aller vers ses collègues, on peut ne voir personne. Et moi, je n'ai jamais souhaité cela. Et en fait, je suis allée voir mon directeur général. Je dis oui, moi, je suis intéressée. Oui. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule. Et en fait, je n'avais pas compris que c'était pour une licence. Donc,
bon, ça s'est fait comme ça un peu. Bon, c'est drôle.
En rentrant le soir, je lis la plaquette. Oui. Je me dis, je regarde mon mari. Je dis, mais mince, je crois que je me suis inscrite pour une licence.
C'est drôle. Vous ne l'auriez peut-être pas osé si vous aviez
ça.
Oui, et vous l'avez eu, votre licence.
Oui, je l'ai eu au mois de janvier. Là, j'ai eu 14 sur 20 mentions.
Waouh, en plus, avec une sacrée moyenne, hein. Félicitations. C'est drôle tel que vous racontez, parce que vous voyez les obstacles qu'on se met dans sa tête. Vous rentrez chez vous avec la brochure, vous dites mince, c'est la licence. Et finalement, vous l'avez obtenue. Chapeau. Hein.
Oui. On m'a proposé de poursuivre en master.
Oui.
Mais là, franchement, je n'en ai pas du tout.
Vous vous sentez fatiguée en ce moment. Oui, non, oui, je comprends.
Ça fait 2 ans que je suis suivie avec un psychiatre qui me fournit une béquille médicamenteuse.
Oui, oui.
Dès le départ, qui a été très honnête avec moi en me disant qu'il n'avait pas le temps de me recevoir pour une psychothérapie.
D'accord.
Mais il m'a donné le nom d'une collègue psychologue qui est super, vraiment, que j'apprécie beaucoup. D'accord. Qui m'a beaucoup aidée aussi pour ma licence, parce que je lui donnais mes écrits à lire, on en parlait, etc.
Oui, c'est bien, elle vous a soutenue, oui.
Oui, énormément, je l'apprécie beaucoup. Et alors, par contre, là où dans les 3 années ça a été difficile, donc il y a eu cette formation, mais c'est surtout suite au décès de ma maman, je me suis mise à faire énormément de cauchemars. Alors, je sais que les cauchemars, pour avoir. Je vous écoute depuis 2004, depuis la naissance de mon premier enfant, en fait.
Ah oui, merci pour votre fidélité depuis tout ce temps. En plus, avec le rythme que vous avez, vous écoutez en plus la nuit, comme ça, dites-moi.
Oui, enfin, après, maintenant avec les podcasts, c'est plus facile, mais avant, c'est vrai que j'écoutais aussi tard le soir. J'étais un couche tard avant aussi. Plus maintenant, j'ai moins d'énergie.
Je comprends, hein, parce qu'avec tout ce que vous faites... Donc, vous avez eu des cauchemars qui. Mais quel genre de cauchemar, en fait, faisiez-vous ?
Alors, le premier cauchemar était plutôt. J'ai envie de dire. J'avais l'impression que ça faisait partie du deuil, comme je l'avais pu le comprendre.
Le son devient moins bon, Sylvie.
Ah, pardon, excusez-moi, je me suis reculée.
Voilà, c'est là, mieux, c'est mieux, merci beaucoup.
Oui, pardon, excusez-moi. Au début. L'un de mes premiers cauchemars, je voyais ma maman au loin et j'essayais d'aller la retrouver. Il y avait plein de gens qui m'empêchaient sur mon passage. Et au moment où j'arrivais près d'elle, elle disparaissait, par exemple.
Oui.
C'était des choses... c'était très triste, en fait. C'était douloureux. Je me suis dit, bon, ça fait partie du processus, j'imagine, d'intérioriser cette disparition, etc. Et oui. Bon, voilà, je me suis arrêtée là-dessus, sauf que dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait des cauchemars qui ont été beaucoup plus difficiles, brutaux. Ça a été vraiment, assez difficile.
Brutal dans quel sens ?
Brutal où je voyais ma maman plus jeune avec des scènes d'ordre de violence. Alors j'ai des souvenirs, j'ai des images assez traumatisantes. Ma maman a eu 12 enfants, je suis la 12e.
Ah oui.
Avec plusieurs papas.
Oui.
J'ai eu la chance de savoir qui moi était mon père, même s'il m'a pas reconnue parce que je lui ressemblais beaucoup. Mais je sais que sur les 12 enfants que ma maman a eu, il y en a au moins 8 qui sont détruits par leur histoire de vie, en fait. Parce qu'ils soit ils ne connaissent pas leur père, soit ils sont devenus alcooliques, soit... Enfin, moi, j'ai gardé contact avec personne très, très tôt dans ma vie. Oui, avec uniquement 2 de mes sœurs qui sont vraiment... extra. D'ailleurs, dans la vie maintenant, je dis plus, je viens d'une grande famille, j'ai 2 sœurs. parce que j'ai pas envie de me compliquer les
questions. Oui, d'avoir des questions intrusives.
Oui,
Bah oui, vous avez raison. Après tout, vous connaissez votre histoire et vous dites, bien sûr.
Voilà.
Et au fond, vous avez un lien avec deux
sœurs. Elles sont adorables. Elles me manquent beaucoup parce qu'elles habitent un petit peu loin. Elles habitent à 3 heures de chez moi. Mais là, ça fait plusieurs semaines que j'ai dit à mon mari qu'elle me manque. Donc, je pense qu'il a compris que je ne vais pas tarder.
Elles vont bien, elles.
Oui, très bien.
Oui, bah si vous, ça elles vous fait du bien d'aller les rejoindre. Je comprends que vous ayez aussi besoin, avec tout ce que vous faites, d'avoir des moments aussi pour vous, un peu d'autonomie, de liberté.
Oui,
Parce
qu'elles aussi ont fait un travail de résilience, on va dire, je pense.
Ce qui vous concerne, oui. Oui.
Et alors, pour en revenir au fait de famille d'accueil, quand je vous disais que pendant ma formation, alors elle m'a énormément remuée, cette licence.
Oui.
Parce que figurez-vous que justement, il y a eu ces cauchemars. Mmh. Et dans mes cauchemars que je racontais à ma psychologue, j'étais toujours en position, un peu comme une vue d'en dessous. Et ma psychologue me dit, mais vous étiez assise à genoux ou vous étiez petite? Et là, ça m'a interrogée. Mais je me suis dit, mais oui, pourquoi ma maman était jeune dans mon rêve, etc. Et oui. Mes frères et sœurs étaient plus petits. Et en fait, non, oui, j'étais
une question de perspective,
petite.
Oui.
C'est ça.
Pour des petits-enfants, tout pareil, on regarde par en dessous les grands.
Oui.
Les adultes.
Exactement. Et justement, lors d'un week-end avec mes deux sœurs, qui à chaque fois que je viens ont la gentillesse de ne pas être en famille avec leurs enfants et leurs maris, on se fait vraiment 24, 48 heures toutes les trois.
Oui.
Et là, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, écoutez, voilà moi ce qui se passe en ce moment dans mes nuits. Et je les ai vues se regarder toutes les deux. Et là, je me suis dit, non, mais là, il va falloir me dire ce qui se passe parce que je vois bien que vous savez des choses. Et elle me dit, mais comment tu es au courant de tout ça? Je lui dis, c'est dans mes cauchemars. Et en fait, ce sont des cauchemars, mais en fait, ce sont des choses qui sont vraiment arrivées.
Vos sœurs ont confirmé, après que vous leur ayez parlé de vos cauchemars
Voilà, et en fait, ma sœur qui est née en 69, donc moi je suis née en 78, et elle monte à l'étage et elle revient, elle me dit, écoute, si tu veux, je veux bien qu'on partage mon dossier de la DAS, puisqu'on disait la DAS à l'époque, non pas la ZEU, qui datait de 74 à 81. Donc moi je suis née en 78, et je ne savais absolument pas que 5 de mes frères et sœurs avaient été placés en foyer.
Oui.
Parce que quand j'étais petite, j'entendais toujours « ils sont en pension
».
Et pour moi, la pension, ça avait une connotation un peu scolaire, un peu de l'ordre de l'internat scolaire.
Oui.
Mais j'ai jamais pensé placement, foyer, voilà.
Bien sûr.
Et je me dis, c'est dingue, je suis dans ce métier depuis tant d'années et jamais j'ai fait le lien avec, avec ça. Et il a fallu que ma maman parte pour que toutes ces choses émergent et que ma sœur me raconte ses souffrances aussi. Je comprends pourquoi ça a été difficile pour elle par moment de m'aimer aussi, parce qu'on en a parlé de ça, parce que quand ma mère était enceinte de moi, ma sœur était en foyer. Et ça
nous a rapprochés. Oui, elles auraient pu en éprouver une grande jalousie, une profonde jalousie par rapport à vous qui...
Oui, on s'est fâchés une fois très fort.
Hein.
On a mis les points sur les i, et puis... Mais parce que jamais elle ne m'avait dit ça. Jamais elle ne m'avait dit... qu'elle avait été en foyer, qu'elle avait été séparée, qu'elle avait été en famille d'accueil.
Oui, c'est un secret, finalement.
Oui.
Donc, il y a eu ces placements, et vous, la petite dernière, on vous avait laissé avec votre mère et votre père, qui ne vivait pas avec elle.
Si mon père, mon père était là. Alors à l'époque, dans les dossiers, on parlait pas de carence affective, de défaillance, de tout ordre. Alors c'était des mots très violents hein, que j'ai lus sur mon père, mais qui étaient en même temps la réalité. Hein. C'était vie au crochet de madame, paresseux, profit de l'argent, etc. Enfin bon.
Oui, c'est plus alors même si ça correspond, c'est plus du jugement de valeur que même si ça correspondait à une réalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne verrait plus paresseux quoi.
Enfin, non, on dirait plus ça. Enfin, on utilise les termes
parents défaillants.
Oui, voilà. Et donc voilà, on a beaucoup pleuré.
J'imagine. Elle avait gardé ce dossier, votre sœur. Comment elle l'avait eu?
Elle l'a réclamé.
Elle l'a réclamé parce que c'est ça. Oui, on lui a donné. Oui. Et donc là, vous découvrez au fond une réalité, enfin que vous connaissiez au fond dans vos cauchemars, parce que vous me parlez de quelque chose de brutal.
Oui. Oui, oui. J'ai des images assez traumatisantes dont j'ai du mal à me débarrasser.
Vous en parlez en thérapie?
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Vous travaillez là-dessus?
Oui, oui, oui.
C'est important.
Oui, oui, oui.
C'est important.
Je ne voudrais même pas vous en parler. Parce
non,
que
vous avez raison. Vous avez raison, Sylvie. Non, non, c'est... Mais d'ailleurs, vous voyez, je vous pose la question à ce moment-là, parce que je pense qu'effectivement, il y a des choses qui ne...
J'ai même du mal à les écrire.
Qui n'ont pas à se dire... Ben oui, mais je comprends très bien. Qui ne peuvent... qui n'ont pas intérêt à se dire publiquement. Mais parce que c'est une protection pour soi-même et qu'il y a, c'est déjà c'est compliqué parfois en privé d'en parler comme vous dites.
Mon mari n'est pas au courant par exemple.
Oui, alors non, je respecte tout à fait ça.
Je fais le lien avec mon mari et cette histoire de moto finalement.
Ah, de moto. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a une moto ou vous...
En fait, quand j'ai rencontré mon mari, donc j'avais 17 ans. Je m'habillais un peu en mode garçon manqué, je crachais par terre, j'étais vulgaire, je voulais passer mon service militaire et je voulais une moto. Donc je pense que déjà à l'époque j'avais compris que j'avais besoin de cadre. D'une manière ou d'une autre, j'avais besoin de d'être sécurisée parce que je sais pertinemment que la sécurité affective, je l'ai pas du tout intériorisée. Et même encore maintenant, c'est difficile. J'ai souvent besoin d'être rassurée. J'ai un mari pourtant très aimant qui ne rate pas une occasion de m'offrir quelque chose qui me fait plaisir.
Et vous êtes vous-même un cadre rassurant pour des enfants qui ont manqué de repères?
Oui, tout à fait. Je sais que je suis la figure d'attachement d'un des enfants qui accueille.
C'est pas rien. Hein.
C'est pas... Non.
Vous rendez compte, vous les aidez à se construire.
Oui, oui, oui. On va vivre bientôt un énième retour à domicile. Et ça nous fait toujours énormément plaisir parce que ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait.
Entre le travail que vous faites en tant que famille d'accueil, une licence en sciences d'éducation, mais je suis très sensible et touchée au fait que vous aviez beau travailler là-dessus, finalement, il y avait quelque chose qui, au niveau de votre histoire, demeurait hermétique, mais finalement qui s'est ouvert, qui a pu remonter à votre conscience au moment du décès de votre mère. Comme si aussi, jusque-là, de son vivant, ce n'était pas possible. Comme s'il fallait la protéger. Il y a beaucoup de choses qui émergent au décès des parents, ou qui peuvent enfin se dire.
Heureusement que je n'ai pas su ça avant, Caroline, parce que... Comme je vous disais, j'habitais très loin de chez ma maman. J'habitais à 3h30. J'étais une des seules à me déplacer toutes les semaines. Oui. Je dormais une nuit là-bas par semaine. Et voilà, parce qu'elle était assez... Malgré avoir eu 12 enfants, on était 3, 4 maximum à s'occuper d'elle.
Oui.
Et symboliquement, quand je suis rentrée à la maison de summer weekend avec mes sœurs, bon, j'ai passé tout mon trajet du retour à pigner dans ma voiture. Mais quand je suis revenue, symboliquement, j'ai retourné le cadre de photos de ma maman pour dire que j'étais fâchée.
Oui.
Je l'ai retourné depuis, mais bon, je sais qu'elle a fait avec ce qu'elle a pu.
Elle a certainement.
Pas eu beaucoup d'éducation. Oui. Elle était née en 34.
Oui.
Je sais pas si vous voyez,
la
Deuxième Guerre mondiale, un décalage complet.
Oui. Quelle histoire, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une histoire très ancienne que vous nous racontez, et pas tant que ça, puisque c'est celle de votre maman. Et on entend, et on voit avec la vie que vous avez, vous, aujourd'hui, enfin, on a l'impression, oui, c'est incroyable la fille que vous êtes devenue et que vous avez été jusqu'au bout avec votre maman, très aimante. Il y a beaucoup de, il y a une capacité d'amour en vous, incroyable.
Là où d'autres, autant, hein.
Mais là où d'autres, malheureusement, certains de vos frères et vos sœurs, il y a ce parcours chaotique qui les a menés à une forme de violence contre eux-mêmes, parfois à travers des addictions, à travers des problèmes comme ça. Et vous, la façon dont vous vous êtes construite, j'imagine, où est-ce que vous avez trouvé, au fond, cette solidité intérieure? Parce qu'on voit dans la famille et la rencontre avec votre mari, mais quand même, comment vous vous êtes construite, vous? C'est incroyable.
Mais je me souviens, toute petite, j'avais 4 ans peut-être, je me souviens, dès que j'entendais que ça commençait à crier dans la maison, qu'il y avait des bruits, je sentais les bouteilles clinquaient un peu, etc. J'allais me réfugier dans mon petit coin et j'attendais que ça passe. Et je me souviens me dire, mais plus tard chez moi, je veux pas entendre des cris.
Mais on peut se demander si vous avez pas eu des figures, des points d'appui quand même, d'identification, pour être aussi construite. Enfin, franchement, peut-être, ça. Oui. Bon, on va pas. Vous voyez, la moto, on va pas en parler ce soir, mais la moto, qu'est-ce que ça représente? On a parlé de tellement d'autres choses et c'était passionnant de vous écouter parce que quelle vie, celle de votre maman, la vôtre, la moto, ça fera l'objet d'une séance avec votre psy, certainement, ma chère Sylvie.
Juste pour vous dire qu'en fait, la moto, ça s'arrange parce que mon mari a changé son fusil d'épaule.
Alors c'est parfait. J'ai été ravie de parler avec vous parce que vraiment, c'est un sacré parcours dont vous pouvez être très fière. Je vous embrasse. Ménagez-vous des petits moments de liberté et des balades à moto peut-être pour vous aérer.
Oui.
Je vous embrasse bien fort, Sylvie. Au revoir.
Au